Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour cette cinquième édition de l'événement Singulier Pluriel. Il y a 5 ans, on a eu envie à la BPI de parler des nouvelles narrations documentaires qui se font sur le web. Donc chaque année, on a un petit peu abordé des sujets différents. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des choses que finalement sont des créations que les gens regardent sur leur ordinateur, dans leur chambre ou salon. Et voilà, de les donner à voir sur des grands écrans, je pense que le public n'a pas encore l'habitude, mais je vous félicite donc d'être là ce soir pour expérimenter avec nous ces nouvelles formes. Voilà, et donc cette année, on a voulu aborder des thématiques, on a voulu prendre, disons, ces formes à travers des thématiques. Donc notamment l'engagement citoyen, le collectif, et puis demain, les migrants. Alors, je vais laisser la parole. Alors, depuis 5 ans, on travaille en partenariat avec le blog documentaire, avec Nicolas Baul et Cédric Mal, qui sont donc nos deux conseillers, qui sont incollables sur la question. Ils ont même écrit un livre que je vous conseille de lire, dont j'ai oublié le titre, mais vous nous le rappellerez. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Nicolas, qui va vous présenter cette première rencontre, et puis à 20h, une deuxième. Peut-être on peut présenter les deux d'un coup, et puis donc Jérémy qui est avec moi sur ce projet. Merci à vous.
Oui, bonjour, tout est à peu près dit. Merci d'être là, à une heure où c'est pas forcément facile de s'engouffrer dans le centre Beaubourg. Quelques mots rapidement, effectivement, pour présenter ce dont on va parler. L'idée, c'était de continuer de parler des web créations, enfin du web, mais peut-être moins directement du web et de la manière dont on crée avec le web que la manière dont on peut utiliser le web ou pas pour à la fois créer du lien et des œuvres documentaires. Et on s'est axé en effet sur des thématiques plus transversales avec la question là des collectifs. Donc juste maintenant à 18h, on va parler de 3 expériences collectives assez différentes les unes des autres. Et donc elles pourront dialoguer ensemble. Enfin, je pense qu'il va y avoir des échos entre les expériences. À la fois l'expérience du collectif syrien Abou Nadara va nous présenter Dorg Zabunian en premier, à travers quelques extraits des films. Ils en ont fait beaucoup. Donc vous en verrez 5, je crois. C'est ça, 5, hein. 6, peut-être 6. Voilà, en réfléchissant à la manière dont cette question du collectif peut changer quelque chose par rapport au fait de réaliser des œuvres en son nom propre, ou en tout cas comme un réalisateur au sens individuel du terme. Et puis ensuite, on parlera aussi d'un projet de Nicolas Contant, alors qu'il n'est pas là parce qu'il ne pouvait pas se dédoubler. Il montre son film à Rennes en même temps quasiment que nous. Un film qui s'appelle Nous les Intranquilles, qui a été réalisé avec l'équipe de l'hôpital de jour de Antonin Artaud de Reims, et qui est présent ici avec nous. Et donc on aura des extraits du film. Et là encore, une présentation du projet sur la manière dont ça s'est déroulé, cette histoire collective. Et puis, un troisième collectif, Synapse Audiovisuel, qui nous parlera des projets. Alors, ce sera plus sur un format de discussion avec vous sur leur mode de production et le mode de distribution aussi des films qu'ils produisent, qu'ils aident à voir émerger dans d'autres contextes, sur le web, mais aussi ailleurs. Et à 20h, une autre discussion. Je vais passer la parole à mon collègue Cédric pour la présentation de cette discussion à 20h, rapidement. Hein. Comme ça, on passe au collectif après.
Bonsoir. À 20h, c'est très simple. C'est, en gros, c'est comment Internet change la manière de s'engager et de s'engager dans les luttes sociales, politiques. Il y aura 3 intervenants. Il y aura Elliot Lepers, qui est un designer politique. Vous découvrirez peut-être ce que c'est, ce métier un peu étrange. Avec Julien Lebot, qui vous présentera un programme, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Tous les Internets. Et avec qui ? Ah, et avec Stéphane Hubert Bills, qui va nous parler d'un projet qui s'appelle Zero Impunity, sur, en gros, les violences sexuelles. Mais à chaque fois... Trois choses qui interpellent directement les internautes et qui les engagent finalement à s'engager dans la vie réelle. Voilà.
Voilà, donc je laisse la parole à Dorg Zabunian pour le collectif Abou Nadara. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis un petit peu un cas particulier puisque je présente un collectif sans faire partie d'un collectif à proprement parler. Parce que je vais vous parler d'un collectif Abou Nadara, qui est un collectif donc de cinéastes syriens anonymes, composé d'hommes et de femmes. C'est un collectif mixte. Je ne sais absolument pas combien ils sont. Il y a une espèce de flou à ce sujet. Moi, je travaille en fait sur ce collectif qui, depuis j'ai un peu travaillé sur les images amateurs que j'avais vues et téléchargées sur Internet au moment des soulèvements arabes. Et j'ai découvert donc le travail de Abou Nadara en juin 2011. Et Abou Nadara, en fait, depuis le soulèvement syrien du 15 mars, enfin, le soulèvement débute officiellement le 15 mars 2011, poste sur Vimeo, ils ont une chaîne Vimeo, un film par semaine. Donc là, vous avez par exemple 475 vidéos. Là, il n'y a pas eu 475 semaines depuis 2011, il y en a eu un peu moins. Mais comme vous le voyez un peu ici, il y a aussi des vidéos qui sont traduites enfin, sous-titrées en anglais et en français. Donc moi, je suis un petit peu le travail de ce collectif depuis ce moment-là. Mais le collectif ne s'est pas constitué avec la révolution. Il existait déjà, il s'est créé en 2010. Et voilà, il répondait même à des appels du gouvernement syrien à l'époque, en 2010, avec des projets de documentaires un petit peu loufoques. Et puis la révolution arrive. Je dis révolution parce que le collectif continue de parler de révolution en Syrie, malgré tout ce qui s'est passé depuis. On a parlé de soulèvement, on parle de guerre civile, on parle de guerre totale, etc. Eux, ils continuent, ils persévèrent dans l'usage de ce mot-là. Donc je ne sais pas s'ils font du web documentaire, à ma connaissance, ils n'ont jamais employé ce terme. Ils ne se définissent pas non plus comme des documentaristes, à proprement parler. Mais c'est un cinéma en lutte, comme on l'a dit, ça c'est certain. Et donc, ils utilisent principalement donc, cette plateforme. Je vais un petit peu en parler, je vais présenter ce travail-là rapidement. Et donc, comme l'a dit Nicolas, j'ai quelques vidéos à vous montrer ensuite, si on a le temps, et on pourra en discuter, bien sûr. Je ne prétends pas du tout épuiser le travail de ce collectif dans cette introduction. Alors, ce sont des films qui sont très courts, hein, vous allez le voir, même s'ils ont réalisé un long métrage en 2013, hein, qui s'appelle « Fragments d'une révolution en cours », qui a été montré d'abord sur Arte, et ensuite qui a voyagé dans plusieurs festivals. Là, il prépare actuellement un long métrage de plus de 3 heures pour la Documenta, qui est donc une structure d'art contemporain très, très importante, qui a lieu tous les 5 ans, une manifestation très importante. Et donc je parlerai aussi de ces déplacements, de ces migrations, un petit peu d'un collectif qui existe sur Vimeo, qui est absolument indépendant, hein, il n'y a pas de producteur. Bon, pour les fragments d'une révolution, ils ont été... voilà, amené à travailler avec des producteurs, hein, bien sûr, sur un producteur en particulier sur Arte, mais ils tiennent à une forme d'absolue indépendance dans le travail qui est le leur. Je pense que c'est un témoignage absolument extraordinaire sur cette tragédie sans nom qui est la situation en Syrie. Pourquoi c'est un travail extraordinaire? Parce que ils prennent en compte l'ensemble des protagonistes de ce qui se passe en Syrie depuis 2011. C'est pas, il n'y a pas de lecture manichéenne entre c'est pas un cinéma qui est, bien sûr, c'est un cinéma qui est contre le régime, qui est contre la présence d'extrémistes djihadistes sur le sol syrien, mais en même temps ils interrogent ces personnes, ils interrogent les personnes qui sont pro-régime, etc. Mais bien sûr, ils interrogent surtout les révolutionnaires syriens, hein, dans la diversité des âges et des sexes. Hein, ça, je pense que c'est très, très important. Et dans la petite sélection que je vous ai préparée, on peut sentir aussi cette grande diversité. Alors, par ailleurs, j'avais préparé un mini PowerPoint. C'est aussi... c'est aussi un collectif qui intervient, hein, qui a une pratique aussi d'écriture, qui publie assez régulièrement, disons, des textes, hein, des textes sur la façon dont les médias essentiellement représentent le conflit syrien. Je ne vais pas lire la totalité j'ai 4 citations à vous montrer, à vous projeter, je ne vais pas les lire en entier. Mais c'est vrai que pour eux, il s'agit de déplacer, si vous voulez, notre perception de la situation syrienne. C'est ça, s'il y a une politique des images elle a, à ce niveau-là, dans ce micro-déplacement. Hein, c'est pas un cinéma militant ou idéologique, comme on pourrait s'y attendre comme ça un peu spontanément. Il y a toujours une tentative d'un pas de côté par rapport, disons, à un système dominant de l'information. Et sans chercher à le parodier ou à le détourner hein, sur un mode un peu post-situationniste, on le verra peut-être tout à l'heure en quoi il y a une distinction entre détourner les médias et les retourner. Alors, je pense qu'il y a une distinction fine, mais très importante dans le travail de ce collectif. Il s'agit aussi de dépasser les... Ça, c'est pas une mince affaire, de dépasser aussi les clichés un petit peu, ce que moi j'appelle un peu tout le folklore révolutionnaire, hein, dans la manière dont on a pu, disons, relater ce qui se passait au début du soulèvement syrien. Non, mais ce folklore révolutionnaire concerne malheureusement un petit peu tous les soulèvements dans l'histoire. Hein, si on regarde ce qui reste de mai 68 dans l'esprit des jeunes générations, c'est absolument terrifiant, hein, c'est du pur folklore. Le soulèvement... Syrien n'est pas exemple de ce folklore non plus. Et puis ils combattent aussi toutes les formes d'orientalisme qu'ils perçoivent aussi à l'œuvre dans le traitement médiatique de cette révolution. Par ailleurs, voilà, il y a plusieurs citations comme ça. Vous pouvez les lire en même temps que vous m'écoutez, deux en même temps. Ils sont engagés. Ce collectif est aussi engagé dans un programme de droit à l'image, et de respect des dignités, de la dignité des victimes aussi, hein, parce qu'on se rend compte aussi, c'est une forme, pour moi, de racisme néocolonial un petit peu, ou de hiérarchie dans le traitement aussi de la représentation des victimes. C'est-à-dire qu'on peut montrer des corps meurtris, blessés, etc., à la une des journaux ou bien dans les journaux télévisés. On montre les Syriens, mais on ne montre pas, et heureusement d'ailleurs, on ne montre pas les corps du 11 septembre, par exemple. On ne montre pas les corps du Bataclan, et heureusement qu'on ne les montre pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir ces images-là, mais le collectif Abou Nadara met en avant, hein, constate cette espèce de hiérarchie, hein, qu'ils traitent dans leurs films, on va le voir un tout petit peu, et aussi par une réflexion juridique, hein, au niveau transnational, pour voir un petit peu comment le droit à l'image et le respect de la dignité des victimes est traité, et la variation aussi. Hein. Pourquoi il n'y a pas d'image du corps du 11 septembre ? C'est pas parce que les médias américains répondent à une déontologie, hein, c'est parce que si vous montrez un corps du 11 septembre, il y en avait énormément autour des tours, hein, et qu'une famille reconnaît un proche, bien, il y a immédiatement un procès, et le journal ou la télévision est obligé de payer des millions de dollars à cette famille. Donc il y a un risque contentieux qui est beaucoup plus élevé, évidemment, dans nos contrées pacifiées que quand on montre des corps de Syriens ou de Centrafricains, pour prendre un exemple récent de une, de photos de corps comme ça, un petit peu meurtris, blessés, etc., dans les unes de journaux. Donc ça ne veut pas dire que Abou Nadara tombe dans une forme d'irreprésentabilité. Non, il ne s'agit pas de refuser de montrer toute scène épouvantable, mais il faut donner aux spectateurs les conditions de s'interroger sur la diffusion, la circulation de ces images-là. Hein, donc, je n'ai pas le temps de développer ce point-là, mais je le mentionne. Autre chose aussi, autre tribune, mais tout ça, en fait, les films, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que le texte va donner la vérité des films, hein, pas du tout, c'est vraiment deux combats parallèles qui se recoupent, et encore une fois, ces textes n'épuisent pas la portée politique des images. C'est que le collectif rappelle sans arrêt tout ce que Bachar el-Assad a pu faire, hein, contre son peuple, en énumérant un petit peu toutes les exactions, et ça je le dis avec le collectif, puisque Abou Nadara parle souvent du gentleman Bachar el-Assad, hein, la manière dont il est présenté. Hein, il faut savoir que Bachar el-Assad travaille beaucoup avec des communicants, que quand il fait un entretien avec David Pujadas sur France Télévisions, par exemple, c'est absolument pensé, c'est une manière de légitimer aussi hein, la figure du dictateur dans nos pays. Hein. Donc là aussi, hein, c'est une mise en garde un petit peu. Et Abou Nadara ne comprend pas du tout pourquoi le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne convoque pas les directeurs de France Télévisions pour leur dire « Mais voilà, qu'est-ce que vous faites quoi ? Vous interrogez un dictateur comme si c'était normal, hein, et vous lui donnez une légitimité qu'il recherche par ailleurs. » Ce que le collectif appelle le storytelling du régime. Enfin, troisième Voilà, quatrième citation, autre texte, autre tribune, hein, plus récente, 25 novembre 2016, c'est cette espèce de réductionnisme finalement occidental par rapport à la figure du Syrien. Donc là aussi, hein, je disais qu'il combattait une forme d'orientalisme. Voilà, et ça se manifeste notamment à travers leur film, et aussi le refus finalement de limiter le conflit syrien, ce qu'on appelle le conflit syrien abstraitement, à une question géopolitique. Hein, Abou Nadara voilà, et a participé notamment à la Biennale de Venise en 2015. Comme voilà, ça c'est tout, aujourd'hui c'est l'ouverture d'ailleurs de la Biennale 2017. Il y a les Giardini et puis l'Arsenal. Tout au bout de l'Arsenal, vous avez des petits espaces de projection. Voilà, là c'était le long métrage dont je parlais tout à l'heure, les fragments d'une révolution en cours qui était montré. Alors c'était assez beau de voir aussi le film dans ce contexte-là, non plus sur son écran d'ordinateur. Et par ailleurs, ça c'était l'aréna aussi de la Biennale de Venise. Là on est plutôt du côté des salles d'exposition. C'était un lieu, en fait, une espèce d'agora où on lisait Le Capital de Marx, etc. Et un film d'Abou Nadara était supposé être projeté dans ce contexte-là. Finalement, il ne le sera pas. J'en parlerai tout à l'heure. Mais Abou Nadara a eu un prix pour lors de cette biennale. Et ils ont été ensuite, un prix que le collectif a refusé, par ailleurs. Ce qui n'a pas empêché, en fait, le collectif d'être sollicité par... Voilà, moi j'en parle un peu avec le porte-parole, il n'y a pas une semaine sans une proposition d'une biennale dans le monde entier. Et eux refusent presque systématiquement dès lors que, en fait, on les sollicite comme par rapport au problème syrien, comme si c'était un problème uniquement géopolitique et circonscrit au niveau régional, d'un point de vue géographique. Et eux pensent qu'au contraire, la question syrienne, avec toutes ces répliques internationales, et on en a connu des répliques terribles ici en France, comme s'il n'y avait pas ces répliques-là. C'est un problème international, mondial, et non pas simplement un problème orientalisant. Voilà. Je reviendrai sur d'autres formes de projection, de diffusion du film, et je vais montrer un premier film du collectif, qui s'intitule donc « Aux armes, citoyens, reporters ». Qui est un film de 2012. J'ai choisi donc six films très très variés les uns des autres. Et là, c'est la forme entretien. Le visage de la personne qui parle est masqué, même si c'est un masquage, vous allez le voir, assez singulier. Et qui parle de ces citoyens reporters qui filmaient les manifestations en 2011 et en 2012, avant que le conflit devienne armé. Hein. Et puis, il n'y a plus de manifestations pacifiques. Et donc les manifestants pacifiques qui voulaient une vie digne enregistraient aussi ce qui se passait. Et ces images ensuite étaient demandées par des médias aussi occidentaux. Et l'une de ces personnes arrête de filmer justement les manifestations. Et il va en donner une raison. Donc c'est le premier film que je montre d'Abou Nadara. Voilà, donc un film de 2012, très, très court. Les formats, encore une fois, sont très brefs. Ça va de quelques secondes à 3-4 minutes. Donc il y a une forme d'entretien comme ça, avec cette image un petit peu sale, qui prend aussi le contre-pied un petit peu des types d'entretien que l'on peut voir dans des documentaires un petit peu plus, disons, formatés. Et donc voilà, un repenti qui décide du jour au lendemain de ne plus approvisionner les chaînes d'information en images, satisfaire un petit peu cette espèce d'impulsion ou d'instinct voyeuriste des téléspectateurs, enfin qu'on présume en tout cas voyeuriste des téléspectateurs. Hein. Par ailleurs, cette personne, on ne sait pas qui a fait dans le collectif cet entretien, on sait que cette personne a aussi donné des images au collectif, mais cette personne a maintenant disparu, portée disparue, on ne sait pas si elle est emprisonnée, si elle est morte en prison, en tout cas, les nombreux citoyens reporters, pour reprendre le titre de ce film, qui ont disparu en Syrie. Donc le collectif lutte avec persévérance contre cette espèce de spectacularisation, ce qu'ils appellent aussi la guerre vue de l'intérieur de la Syrie. Et donc une forme d'indifférence qu'on entretient, tout le monde, vous comme moi aussi, par rapport à ce conflit, provient peut-être de ces schémas de perception qui sont absolument monolithiques. Moi, je suis persuadé que si on montrait deux minutes ce que le collectif a voulu faire avec Arte, comme au moment de la guerre, il y avait deux minutes pour Sarajevo, rappelez-vous, pour les personnes qui s'en souviennent, dans les années, début des années 90 pour la guerre en Bosnie. Arte montrait 2 minutes pour la Bosnie, pour Sarajevo. À ce moment-là, Arte avait accepté. Là, le collectif a fait la même demande à la chaîne et la chaîne a refusé. Moi, je suis persuadé que si on montre ça, voilà, ça a des effets. On ne peut pas déterminer les effets, bien sûr. Hein, je ne dis pas que c'est un rapport de cause à effet direct. Mais voilà, ça déplace, ça bouleverse un petit peu notre perception. Et ce déplacement des perceptions, il peut se faire aussi de façon tout à fait avec des témoignages du quotidien de la révolution. Alors, la révolution, ce n'est pas uniquement, encore une fois, c'est pas uniquement les soldats de Bachar el-Assad qui tirent et puis des corps qui sont criblés de balles. Ce sont aussi des hommes et des femmes qui s'organisent avec des effets parfois positifs sur leur quotidien, comme voilà, cette femme que vous allez voir. Donc là, ça dure 1 minute 50. Ça s'appelle Mèche Rebelle. Voilà, donc aussi un film de 2012 hein, de cette jeune femme, donc voilà, non voilée, assise sur un. Voilà, sur un lit et qui témoigne de cette espèce d'expérience, voilà, qui peut être une menue expérience de la vie quotidienne, mais qui aussi renvoie aux effets aussi de la révolution sur la vie quotidienne, hein, aussi en particulier sur les femmes, hein, qui m'ont beaucoup manifesté hein, pendant les soulèvements pacifiques et qui sortaient la nuit et qui bouleversaient aussi le mode de vie aussi à la maison, hein, domestique. C'est-à-dire on sortait dans la rue, on se couchait plus tard, donc ça avait aussi des effets au niveau des rapports hommes et femmes. Et puis ce récit-là, voilà, hein, sentir le vent dans les cheveux, voilà. C'est pas du tout, en apparence, c'est pas du tout révolutionnaire, mais voilà, je pense que ce collectif-là fait un travail politique au sens où on donne la parole aussi à des personnes qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, puisque le peuple syrien hein, est complètement abstrait, on ne sait pas ce que c'est que le peuple syrien, mais ce collectif fait un travail en interrogeant voilà, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, de persévérance encore une fois, tout à fait louable. Et donc c'est pas forcément un cinéma, comme je l'ai dit, militant au sens où l'on pourrait la. C'est pas un cinéma de résistance. Le mot de résistance étant aujourd'hui à mon sens totalement galvaudé. Hein, il est tellement utilisé qu'il perd de son sens. Voilà. Moi je sais pas comment on peut définir un film comme celui-ci, mais je pense que c'est politique au sens où ça déplace un petit peu notre vision, et le fait même de voir autre chose de ce qu'on voit habituellement, c'est déjà un geste assez fort. Après, se pose la question de savoir si c'est un cinéma politique, c'est un déplacement de la perception, hein, peut-être pas du tout. Il y a des personnes qui font du cinéma militant et qui ne veulent peut-être pas avoir une autre perception que celle à laquelle ils croient. Ça, c'est une question que je pose pour la discussion de tout à l'heure. Parce que moi, je m'interroge justement là-dessus pas mal en ce moment, de savoir si le cinéma politique, c'est celui qui nous désoriente ou pas. Peut-être pas. Après tout. Troisième exemple, comme la session, c'est aussi, on en parlait avec Nicolas, c'est aussi une session par rapport aux médias, et je précise que pour moi, les médias sont très importants. C'est aussi facile de critiquer les médias comme ça, de façon globale. Je pense que la télévision, etc., c'est un travail remarquable, mais on peut s'améliorer. Hein. Parfois, on peut vraiment progresser. Et donc, Abou Nadara, comme collectif, cinéaste anonyme, sont très attentifs à la manière dont la guerre en Syrie, la révolution est traitée. Et là, c'est pas simplement la France ou la propagande du régime syrien ou la propagande de Daesh. S'intéresse aussi à la manière dont fonctionnent les médias internationaux, comme ici la chaîne Fox News. Alors, vous connaissez peut-être Jeanine Pirro, parce qu'on en parle depuis que Donald Trump a été élu, pas encore en tout cas, donc à la présidence des États-Unis, puisque c'est une juge en fait qui fait la télé-réalité aussi sur Fox News. Abou Nadara, donc juste après les attentats de Charlie Hebdo et de la porte de Vincennes, donc voit ce témoignage. Donc, c'est une espèce de. C'est pas une journaliste vraiment, mais c'est un peu une commentatrice. Elle commente, fait des discours comme ça, donc vous allez voir le tour. Alors c'est pas traduit, donc c'est en anglais, mais voilà, je vais laisser 30 secondes, pas plus. Et ensuite on va voir comment justement Abou Nadara va essayer de retourner cette espèce d'interprétation des attentats qui ont eu lieu donc en janvier 2015 à Paris. Voilà, ça c'est donc ce que voient les membres du collectif.
We need to kill them. We need to kill them. The radical Muslim terrorists hell-bent on killing us. You're in danger, I'm in danger. We're at war, and this is not going to stop. After this week's brutal terror attacks in France, hopefully everybody now gets it. And there's only one group that can stop this war, the Muslims themselves. Our job is to arm those Muslims to the teeth, give them everything they need to take out these Islamic fanatics. Let them do the job. Do we need to simply look the other way?
Voilà, donc hein, cet personnage tout à fait singulier hein, de la télévision américaine. Je précise que Fox News hein, était vraiment à la droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier américain. Et cette personne aujourd'hui défend vraiment toutes les positions prises par Donald Trump. Alors, voilà, donc là, on n'est pas, c'est pas forcément voilà, sur la révolution syrienne, mais malgré tout, hein, c'est pas sans lien hein, ce qui s'est passé à Paris avec. Qui se passe là-bas, et donc le collectif voit, donc se tombe là-dessus, et il propose de faire un film à partir de ça, que voici. 2 minutes.
Are we morons? We need to kill them.
Voilà, donc 2015, janvier 2015. Voilà, bon, on pourrait en discuter longtemps, mais voilà, pour moi, c'est pas du tout un exemple de on pourrait parodier cette commentatrice assez facilement finalement, hein, mais c'est pas le parti pris du collectif. Encore une fois, je veux pas du tout être dans le commentaire et épuiser la signification d'un film comme celui-ci. Hein, mais voilà, je trouve. C'est intéressant la manière dont il part d'une image extrêmement lisse, hein, l'image voilà, de Fox News, avec cette personne extrêmement maquillée, etc. Et puis, une espèce de déplacement vers une texture, une matière d'image beaucoup plus sale, beaucoup plus pixelisée, une pixelisation délibérée de cette image. Et puis, bien sûr, bon, la musique, et puis surtout, les mots. Hein, les mots qui reviennent comme ça au rythme de la musique, et puis la répétition de ces mots. Je pense que là, il y a une mise en scène de la répétition qui est, voilà, je pense, assez suggestive. Et finalement, c'est, voilà, on est amené à entendre à ce qui est côté aberrant de ce qui est dit. Et surtout, je pense que ce qui est ici voilà, mis en évidence, c'est que finalement, les terroristes et puis cette journaliste, appelons-la ainsi, finalement, ont la même terminologie, le même vocabulaire. Voilà, c'est ça, je pense, qui est un petit peu le fil souterrain de ce film. Alors, je vais en passer, je vois que le retourne, et donc je vais vous montrer un... Il m'en reste deux autres à vous montrer, vous voyez, c'est très très court. Et là, il apparaît pas. Bon, bah alors, je vais vous montrer celui qui est sur le site. Voilà, quelque chose de plus récent. Voilà. Voilà, là, on est en... On est l'automne 2016. C'est au moment du siège d'Alep Est, hein, qui la destruction d'Alep Est plutôt, parce que le siège d'Alep Est n'a pas débuté bien longtemps avant les mois de novembre et de décembre. Là aussi, le collectif joue beaucoup de l'écart entre un titre et ce que l'on voit ensuite. Une espèce de disjonction entre voilà, ce qui est premier pour le spectateur ou l'internaute, puisque ces films-là, encore une fois, moi je les vois là sur l'ordinateur et je les vois aussi en grand écran. Vous n'avez que le grand écran. Mais ce qu'on voit en premier, c'est souvent le titre. Et puis qui oriente un peu notre... On se dit, ah ouais, le Butcher of Alep, bon bah voilà, ouais, on va avoir un film horrible avec des corps, voilà, etc. Et est-ce que c'est le cas? Bon bah, on va voir ce que ça donne. Oups. Avec cette... Attendez, je vais mettre ça. Voilà. Voilà, donc là c'est la court film, là aussi, hein, sur voilà, donc le boucher d'Alep, il fallait l'entendre vraiment littéralement et non pas en sens figuré. Voilà, écrasé par le docteur de Damas. Et le docteur de Damas, bah, c'est Bachar el-Assad, puisque peut-être que vous le savez, mais il est ophtalmologue de formation, il a une formation en ophtalmologie, donc d'où ce... de terme docteur de Damas. Et là aussi, hein, point de vue sur un aspect de la vie quotidienne, hein, en apparence il ne se passe rien, Hein, mais justement, cette quotidienneté, elle peut être vecteur, encore une fois, d'un déplacement, d'une désorientation de notre perception par rapport aux images qu'on a de toujours les mêmes, hein, de cette situation en Syrie. Hein. Voilà, et là aussi, un écart, grand écart aussi entre le titre et puis ce que l'on voit. Hein. Dernier, je m'arrêterai après avec le... Je voulais dire un mot quand même sur... voilà, je reviens à mon diaporama. Donc les déplacements, les espaces autres dans lesquels les films du collectif sont montrés. J'ai parlé de la Biennale de Venise. J'avais moi-même participé à une exposition qui a eu lieu à New York au Verrilli Center, qui est en fait un espace d'exposition de la New School de New York, qui était autour du droit à l'image. Et donc c'était une manière de... Le collectif m'avait demandé, avec Anne Marquez, qui est une commissaire indépendante, de réfléchir à une mise en espace du travail du collectif. Donc on est dans des conditions très très difficiles. On est sur la 5e avenue, mais on avait très peu de moyens. Et là, c'était une projection en fait, donc, qui donnait sur la 5e avenue, comme ici. Et puis, voilà, il y avait la lumière du jour, mais la lumière variait aussi en fonction du temps, hein, qu'il faisait dehors aussi. Et on avait opté pour une triple projection, hein, des films du collectif. Donc, il y avait une simultanéité, hein, et on avait pensé à un montage où les différents écrans communiquaient entre eux. Donc c'était une première tentative d'exposer le travail d'Abou Nadara. Il y en aura peut-être d'autres, mais je sais que le collectif est très désireux de tenter ce genre d'expérience, et en même temps assez réticent, puisque dans les grandes manifestations d'art contemporain, comme à Venise par exemple, finalement les commissaires d'exposition donnent assez peu d'informations aux artistes, et je sais que le collectif était un petit peu désolé de voir que leurs questions, leurs demandes étaient peu, il y avait peu de retours de la part des commissaires pendant la préparation de l'exposition. Et donc je terminerai en vous montrant le film qui a été censuré. Qui n'a pas été montré, qui devait être montré lors des journées professionnelles, qui s'appelle « Tous les futurs de la Syrie », qui est un jeu de mots avec le thème de la Biennale de Venise de 2015, qui était « All the world's futures », c'est-à-dire « Tous les futurs du monde ». Et ce film devait être montré les trois premiers jours lors des journées professionnelles dans l'aréna que vous avez vu tout à l'heure. Et il n'a pas été. Bon. Peut-être que c'est lié à la commande proposée par le collectif, enfin, la commande faite par les gens de Venise, et peut-être que les gens de Venise se sont sentis visés par ce film. Voilà ce que ça donne, et je m'arrêterai là après.
Le jour. Oh, I...
Voilà, merci beaucoup de votre patience, et j'ai dépassé de 2 minutes, Nicolas, mais voilà.
C'est parfait. Merci beaucoup, Dorc, pour cette présentation passionnante. J'ajoute que Dorc a écrit un article avec Cyril Béguin. Alors peut-être vous avez le numéro du cahier du cinéma, j'ai pas...
C'est un entretien. Oui, c'est un entretien avec le collectif qu'on a fait, en juin 2015. Voilà.
Voilà, si vous voulez approfondir la question, vous pouvez aller rechercher dans les archives. Je suis heureux par ailleurs qu'on parle effectivement de Abou Nadara, pas tant dans une réunion qui parle de la Syrie ou du conflit syrien, enfin même pas du tout, mais sur le conflit ou la guerre des images, le conflit des images, la façon dont on utilise les images et surtout qui produit les images. Le premier film à ce sujet est quand même assez éclairant sur qui produit les images et pour qui on les produit, et je pense que c'est un questionnement qui va se poursuivre sous d'autres formes, évidemment, avec les deux collectifs qui vont prendre la parole maintenant, et sur pas mal d'oppositions, en tout cas de structurations, entre détourner ou retourner les images du pouvoir, ou cette question de comment se tenir par rapport à ces images. La question politique et la question du militantisme aussi, c'est une question qu'on s'est notamment posée aussi... je les voile un peu avec Synapse. Question est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on porte le terme de militantisme ou de politique dans la démarche. Peut-être justement Synapse pour continuer avec Florian et Yacine. Et puis on bouclera avec le projet de Nicolas Contant et du centre Antonin Artaud à Reims. Et puis ensuite, si on va essayer de garder un peu de temps effectivement pour réunir et parler de ces questions-là, tous ensemble et avec vous, évidemment, avec vos questions que vous pourriez avoir. Bah, on va voir. Hein. Oh non, restez sur la demi-heure.
Ouais, ok. Si à moi de mettre un peu plus de lumière, parce que de toute façon, on va pas projeter.
Un petit peu plus de lumière, peut-être, si on peut. Merci.
Ouais, comme ça. Il y a un peu plus
comme
de
ça, on vous voit aussi. Bonsoir à toutes et à tous.
Merci d'être là.
Déjà. C'est vrai que c'est un peu difficile de rebondir. Enfin, c'est pas que c'est un peu difficile, mais c'est étrange de rebondir après une très bonne présentation par ailleurs du collectif Abou Nadala. En fait, on se sent très proche de. C'est ce qu'on se disait, on se murmurait, peut-être qu'on vous a dérangé un peu d'ailleurs. On se disait qu'on était assez proche, qu'on se sentait très proche de leur travail. Et on se demandait aussi que peut-être un jour aussi on aura des professeurs d'université qui viendront parler de notre travail. Nous, en fait, on va vous lire un texte. On ne va pas vous projeter d'extrait de film. En fait, à la place, on va vous lire un petit texte que je te laisse présenter après, Florian.
Ouais.
Et on va aussi, surtout, vous inviter à venir voir un de nos films qui est présenté ce dimanche-là. Alors, par contre, il faudra traverser le périph'. Pour aller en Seine-Saint-Denis. C'est un film dont le suivi de production a été fait collectivement. C'est sur un centre social autogéré qui s'appelle La Tchéquée, que peut-être vous avez dû entendre parler, qui est à Saint-Denis, qui est un espace occupé, qui fait office de logement d'urgence et en même temps de centre social. Et donc voilà, je vais juste passer vous distribuer des petits flyers. Et je laisse.
Et en attendant, moi je vais continuer la pub. Parce que justement, si on n'a pas projeté d'images aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est dit qu'il y avait beaucoup trop d'images qui étaient projetées dans le centre de Paris. Et donc, en fait, on va vous inviter à venir voir des images plus longues, qui reflètent un peu plus ce qu'on fait. Donc ça, c'est la première invitation. Et tout est gratuit en plus, hein, donc il ne faut vraiment pas hésiter. C'est juste un gros effort, parce qu'il n'y aura peut-être pas forcément des super sièges et tout, mais ça, c'est la Tchéquée. Et sinon, on a aussi un autre rendez-vous le dimanche... aide-moi avec la date, là. Dimanche 21 mai, ça c'est à Arcueil, donc c'est plutôt dans le sud, et en fait les 10 ans de notre collectif Synapse, et on met notre chapiteau du cinéma voyageur dans une petite rue, et on fait une rétrospective de tous les films qu'on a fait depuis 10 ans, et voilà, ça commence à 11h du matin, on fait un barbecue, il y aura une buvette, et puis on projette des films et on en discute jusqu'à 22h, voilà, ça c'est dans le sud. Après, pour le rattrapage et pour des lieux plus... Il y a aussi le 31 juin... Non, le 3 juin, il faut noter sur les agendas, on sera sous la halle du marché de Croix-de-Chavaux avec le cinéma voyageur pour projeter des films toute l'après-midi et la soirée. Et le 16 septembre, c'est encore plus loin, on sera à la Butte Pinson, c'est la limite entre le 95 et le 93 derrière Villetaneuse. Et on fera une projection, c'est l'avant-première d'un film qui a été tourné dans un camp de gitans sur place. Et on se met à cheval entre le camp de gitans et les gadgets et on fait une soirée projection là-bas. Yeah. À Arcueil, c'est le dimanche...
Dimanche 21 mai.
21 mai.
Dans deux semaines.
De 11h à 22h au 18 rue Henri Barbus, à côté du RER La Place.
Il y aura des projections de tout ce qui a été fait pendant 10 ans par le collectif, et notamment aussi le film qu'on vous invite à voir ce week-end à Saint-Denis. Il sera aussi projeté là, donc si vous ne pouvez pas venir à Saint-Denis, bah vous êtes quand même les bienvenus à Arcueil. Et il y aura aussi un petit barbecue...
Alors justement, à moins que le texte en parle, que vous allez lire, peut-être de présenter dans la continuité des 10 ans de Synapse ce que fait Synapse pour les gens qui ne connaîtraient pas, sauf si le texte en parle.
Très rapidement, Synapse, donc un collectif qui a 10 ans, fête notre anniversaire. D'ailleurs, on est très contents de se faire inviter pour nos 10 ans dans un lieu de l'intelligentsia culturelle comme ça, parce qu'on n'est pas trop habitué. On fait de la production de films. Avec nos petites mains et de manière très artisanale et avec quasiment pas de sous. On fait autant du documentaire que de la fiction, que du court, que du long. On a dû produire une dizaine de films en 10 ans. On fait pas forcément de la réalisation collective, mais on fait beaucoup de la production collective. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Et après, à côté de ça, on fait aussi du soutien de projets extérieurs, de la mutualisation de moyens et de la mutualisation de savoirs. On fait de la formation et de la transmission et des ateliers avec tout type de public et de copains et copines. Et on a un projet qui, lui, a 7 ans, qui s'appelle le Cinéma Voyageur. Et le Cinéma Voyageur, c'est une tournée itinérante dans l'espace public où on tourne entre le 15 juin et le 15 septembre de partout dans toute la France avec un chapiteau et un écran gonflable. Et on diffuse des films que nous, on appelle hors-circuit, qui sont des films qui n'ont ni de distributeur ciné, ni de diffusion chaîne télé. Et on essaye de les sortir d'Internet et des festivals intimistes pour les emmener sur les places de village et les partager avec les gens. Voilà. Dernière chose, voilà, nous on est enfin, c'est un peu bizarre qu'on a eu l'invitation parce que nous, le web, en fait, c'est un peu un cheval de Troie. On est un peu présent sur le web, même si on est un peu nul, mais parce que nos films, on les met en Creative Commons et ils sont en téléchargement libre et gratuit, et donc ils sont sur plein de. Autant sur des peer-to-peer que sur YouTube et tout, et ils sont accessibles à tout le monde. Et ça marche parce qu'en fait, en faisant ça, il y en a qui s'intéressent à ce qu'on fait, et puis après, on les croise en vrai, et donc on peut en voir les films sur des grands écrans et boire des coups et manger et vraiment partager des vrais moments. Et ça marche même pour pouvoir se rencontrer comme ça dans des conférences. Donc voilà, le cheval de Troie d'Internet marche pour pouvoir dépasser cet écran numérique individuel. On passe au petit texte ?
On va passer au texte. Tu l'as présenté, le texte ?
Non, mais le texte, voilà, c'est un texte qu'on a écrit avec à 5 mains, enfin, ouais, oui, à 5 personnes. On faisait partie de 3 collectifs différents, dont Synapse, et on a échangé pendant 1 an sur nos pratiques, et on avait échangé sur exactement les questions de la soirée, un peu sur les questions de collectif et sur les questions d'engagement politique. Et au bout d'un an d'échange à 5, un des 5, un copain, a romancé ce texte-là. Et il est beaucoup plus long, et là c'est un extrait. Voilà. Mais on va essayer de faire ça de manière pas trop chiante.
C'est toi qui commences ?
Ouais. Il y a quelques jours, Pôle emploi m'a écrit. Pôle emploi m'écrit souvent. Il pense beaucoup à moi. Mais cette fois-ci, alarmé par la faiblesse de mes démarches, l'institution souhaite me rencontrer pour cerner mon profil. Mon pauvre profil. Je l'imagine assiégé et retranché, sommé par quelques sbires de l'insertion de bien vouloir entendre raison. De faire profil bas ? Non. Pour éviter d'en arriver là, je décide d'honorer le dress code. Le rendez-vous, pardon. Dress code, passe blanche. On y vient finalement à plusieurs. C'est qu'on a fini par prendre l'habitude de se déplacer en meute. Arrivé sur place, on patiente dans ce qui semble être une salle d'attente. Au plafond, quelques caméras de surveillance. Au mur, des affiches sur lesquelles apparaissent des gens qui sourient, comme s'ils avaient une arme pointée sur la tempe. Et quelques phrases plutôt comminatoires. Travaillez dans la culture. Artiste, avez-vous pensé à la formation continue ? Un homme s'avance vers nous. J'ai l'impression qu'il s'apprête à nous annoncer qu'il va falloir être fort et que malgré tous leurs efforts, les médecins n'ont rien pu faire. Je divague. Nous ne sommes pas à l'hôpital, mais dans un de ces lieux où sont censés se jouer nos vies et nos parcours. Là où il n'y a jamais assez de cases dans le formulaire pour y faire rentrer nos rêves et leur souffle. Là où la contrainte dissimule mal son visage hideux derrière les plaquettes d'informations alignées sur un présentoir minable.
Dans le bureau, un autre homme. Nous serrons sa main, flasque et exsangue, comme si son cœur ne battait plus assez pour alimenter toutes les parties de son corps en même temps. La discussion s'amorce. Il est là pour nous aider et trouver une solution. Reste à identifier le problème. Que faisons-nous dans la vie ? Des films. L'homme tapote sur le clavier de son ordinateur. Il doit bien y avoir des postes à pourvoir. Au passage, il vante les mérites du cinéma. C'est bien, le cinéma. Tout le monde aime le cinéma. Et puis, il y a ces gros tournages qui viennent barboter dans le bassin d'emploi local, avec quelques points de croissance comme brassard. En prime, une ou deux stars à photographier pour détourner le regard des journalistes de l'entrée de ces usines à ciel ouvert où s'abîment, comme ailleurs, les ouvriers de l'industrie du rêve. Du glamour et des profits. Notre interlocuteur en est tout excité. Pour faire la conversation, en attendant de nous trouver des offres d'emploi, il demande si cela fait longtemps que nous sommes dans le métier.
Quelque peu crispé, nous voyons dans l'obligation de répondre que nous ne sommes pas vraiment dans le métier. On s'explique. Il y a une intuition, une voix. Sans forcément savoir d'où cette voix nous parle, on peut néanmoins la sentir et l'entendre. Comme une tradition qui énonce sa propre nécessité, celle du goût pour le récit et son partage avec l'autre. Il y a peu, ce goût est devenu besoin, et il est entré en collusion avec une caméra. Un bloc de plastique et de composants électroniques fabriqués par une firme multinationale. Une caméra, un vulgaire objet. Mais il y a eu un choc. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues difficiles à décrire et parfois à comprendre. Via cet objet, nous avons eu l'impression de permettre à nos enfants, ce qui refusaient de se taire, de jouer les prolongations. Et pourtant, dans le même temps, la maîtrise de l'outil semblait renvoyer à une compétence perdue au beau milieu d'une fiche métier. Il a fallu se positionner. Un simple métier, impossible. Bien sûr, nous avons pris acte de ce qui existait avant nous, de la technique et de ses annales. Et avons parfois réussi à glaner 3 sous en vendant notre force de tournage. Et puis tout de même, nous aimons parfois nous glisser dans la chaleur rassurante des statuts sociaux de vidéaste, cinéaste, filmeur, cadreuse, réalisatrice, réalisateur. Ça rassure nos proches. Et ça nous rassure, nous aussi. Mais l'enjeu, à milieu de l'industrie et du gigantisme de ces échelles de production, reste d'actionner de petits personnages, leur histoire, et de leur faire raconter ce qu'il y a au-delà des clôtures de l'enclos.
Face à nous, l'homme paraît dubitatif. Il ne sait pas comment traduire en mots-clés notre requête afin de pouvoir affiner sa recherche d'offres d'emploi. Il va falloir lui expliquer, et ça s'annonce pas simple.
Faire des images, filmer des gens et des lieux, participer à des tournages, monter de la matière audiovisuelle pour raconter une histoire, en prenant appui sur ce qui se passe dehors ou en construisant des fictions. Parfois, les deux en même temps. Pour nous, c'est un jeu. Et avant toute chose, on s'amuse. Il est des enfants qui préfèrent les camions de pompiers et autres voitures miniatures aux modèles réduits de vaisseaux spatiaux sophistiqués, comme pour imaginer et mettre en scène ce qu'ils voient par la fenêtre et sur quoi ils n'ont pas encore prise. D'autres encore se rêvent sorcières et sorciers quand l'ennui d'un après-midi défie leur vivacité. Nous essayons de rester ces enfants-là, avec nos caméras et nos images, ne pas leur mettre un baillon à ces mômes qui se terrent dans les convenances. Ce désir-là étouffe un peu quand il est obligé de se déguiser en emploi. Et on leur en préfère plutôt... Ils se préfèrent plutôt choix ou brèche. Par contre, c'est du travail, beaucoup de temps, un apprentissage. La caméra se dompte et souvent elle monte les crocs. Ce travail-là, il nous dévore, il nous fascine, il nous met en mouvement. Et ça coince quand il se fait emploi. Quand on a l'impression de vendre et de dilapider notre colère et notre énergie parce qu'il s'est trouvé que notre savoir-faire a tout à coup une valeur. Certains esquivent et choisissent de protéger leur précaré de toute intrusion, renoncent à se faire une place dans le milieu, à s'en sortir en gravissant les échelons vers une hypothétique réussite. D'autres composent. Reste que nous partageons l'idée d'une autre valeur motrice que celle de la rémunération et du succès avec leur échelle de mesure malsaine. Il n'y a pas à attendre d'une industrie qu'elle célèbre nos rêves et leurs images, quand bien même nous grignotons parfois quelques-unes de leurs miettes. Quand se pose la question de la subsistance, peu de réponses, seulement quelques pistes, déjà une assise. Il n'est pas question de se plier aux desiderata de ceux qui toisent nos histoires, en vérifient la dentition, lèvent ou baissent le pouce et signent le chèque, si tant est qu'ils soient d'humeur partageuse. Et puis il y a ce fantasme qui nous guide parfois, celui d'un ou d'une raconteuse d'histoires qui se promènerait en distillant leurs mots et leurs images, sans oublier de partager leur savoir-faire, et à qui on propose un temps le logis et le couvert, pour les remercier et simplement leur permettre de continuer, jusqu'à ce qu'ils trouvent où et comment participer à la vie de la collectivité, avec leur image, mais aussi avec leur être. Un fantasme qui, oui, ne paye pas nos loyers, mais qui guide les pratiques. C'est peut-être en essayant de s'affranchir de cette industrie de l'image et en proposant directement nos films et leur histoire à ceux qui ont envie d'en voir et d'en entendre qu'on invente et qu'on inventera d'autres façons d'en vivre.
L'homme paraît quelque peu déstabilisé. Il cherche matière à répondre sur l'écran de son ordinateur. Avant de se tourner vers nous, comme s'il venait enfin de comprendre, il s'excuse. En fait, il nous avait pris pour des techniciens alors que, en réalité, nous serions des artistes. À fleur de peau, avec des regards singuliers et des sensibilités devenues outils de travail. Des professionnels du ressenti. Des machines à produire de l'émotion, du sensible et du divertissant. Le silence qui suit sa déclaration fait chuter la température dans la pièce.
Si nous rejetons l'idée que raconter des histoires sur un écran ne soit devenu qu'un métier, nous traitons l'artiste et l'auteur avec autant de défiance. L'idée que certains aient un regard sur le monde et que d'autres soient cantonnés à consommer ce regard moyennant le prix d'une place de cinéma finirait presque par nous donner des hauts le cœur. Peut-être par culpabilité de jouir de ce temps pour déployer nos imaginaires quand la majorité en est privée. Mais certainement plus par rejet de ces artistes mégalomaniaques qui conçoivent leur existence comme un outil de travail et leur imaginaire comme une matière première avec une valeur marchande. Quelle indécence que ces millions d'euros brûlés sur l'autel de l'épanouissement artistique d'une poignée de nantis. Suscitant de fait une situation de pouvoir, l'ascendant de ceux qui expriment sur ceux censés seulement recevoir.
L'homme arrête de malmener le clavier de son ordinateur et nous regarde aux yeux écarquillés. Il semble s'agacer. Mais de quoi diable sommes-nous en train de parler ?
Justement, on y vient à nos histoires. Mais pour les comprendre, il faut saisir d'où elles viennent. C'est qu'on avait fini avec la lassitude par devenir imperméable à ce monde et à son chaos répétitif. Filmer, c'est parfois rester perméable. Parfois même curieux. Au moins éveillé. C'est continuer à se confronter aux choses, à les prendre en pleine gueule, comme si on les redécouvrait sans cesse. Pour certains, il s'agit d'interrompre une chute en se raccrochant à quelque chose au passage. D'autres ambitionnent de toucher le monde avec leurs mains pour vérifier qu'il est encore bien là. Ou encore d'en garder un souvenir pour ne rien regretter quand on l'aura changé. Au-delà de nos différences, nous partageons le goût de l'espace de l'inutile, au sens où il n'a pas de finalité productive. Et par les temps qui courent, l'inutile se fait denrée rare et précieuse.
L'homme s'est endormi. Il est vautré sur son bureau, un filet de bave qui descend rappelle à la commissure de ses lèvres. On le réveille, il sursaute, réalise, grand soupir, qu'on est toujours là. Après avoir repris ses esprits et réajusté sa chemise, il se remet à la tâche. Mais il ne sait plus quoi taper sur le clavier, jusqu'à ce que son visage s'illumine à nouveau. « Mais en réalité, vous êtes des cinéastes militants, n'est-ce pas ?» Il nous raconte qu'il y a peu, il a vu un film sur le réchauffement climatique et que ça l'a sacrément indigné. Et qu'après, il est allé au resto avec madame. Une bien belle soirée.
On sourit. C'est que notre envie de jouer se sent souvent à l'étroit dans ce qu'on attend communément d'un cinéma militant qui dénonce et se regarde souvent dénoncer avec des thématiques usées jusqu'à la corde. Un cinéma qui a sa plage horaire et ses consensus mous réservés par avance dans les salles d'arrêt-essai. Nous partons du postulat qu'il n'y a pas à réveiller le peuple, à le conscientiser de force, ni à lui expliquer qu'on lui ment ou qu'il ne comprend rien. C'est déjà se positionner au-dessus du spectateur que de faire des films dans cette optique. Et puis un film n'a jamais changé le monde, et l'écran aplatit tout, même la colère. Bien que nous ne faisions pas tous les mêmes films, nous aurions plutôt en commun de nous attacher à peindre des petites histoires. On espère qu'elles portent en elles les grandes. Essayer de réenchanter ce qu'on peut voir quotidiennement dehors et autour de soi. Lire la réalité comme une bande dessinée foutraque et poétique. Bande dessinée dans lesquelles les bulles n'auraient pas encore été remplies. À nous de les écrire, effacer et réécrire encore et encore. Des bulles vides comme autant d'espaces imaginaires à investir et ou tricoter de folles épopées, en partant pourtant de si peu. Se triturer les méninges pour faire de petites choses, de véritables événements. De la routine, une fête ou une bataille qui s'ignore. Considérer qu'il n'y a de vide et de silencieux que les lieux et les gens qu'on abandonne à ce triste sort. Chercher des ressentis denses, lointains, obscurs, complexes, parfois dangereux et gênants, de ceux qui remettent en cause la normalité, les apparences ou encore le fameux cours des choses. Et quand on s'évade et qu'on part loin de nos routines, ce n'est pas pour filmer l'autre comme une bête de foire échappée d'un journal télévisé, déconstruire ce qu'il faudrait filmer, remettre des corps et des ressentis là où il y a des idées et de la théorie et vice-versa. Quand nous avons du mal à mettre en mots une esthétique, voire un cinéma, alors nous cherchons des analogies. Souvent, nous pensons à des légumes qui poussent et à qui on laisse la possibilité de le faire naturellement. Du coup, ils sont parfois biscornus, il reste un peu de terre dessus. Ils sont imparfaits, pas calibrés, parfois franchement abîmés. Surtout, ils ne permettent pas un rendement maximal. Mais au final, ces légumes, ils ont du goût. Nous avons acté depuis longtemps que nos vies n'étaient qu'enchevêtrement de politique, de ressentis, de rêves et de confrontations plus ou moins heureuses à l'ordre en vigueur. Nos films plantent leurs racines dans cet enchevêtrement. Ils ont parfois un point A et un point B et incertain, laissant le soin aux spectateurs d'aller tricoter leur propre histoire dans les nôtres. Nous assumons les tentatives, leurs approximations et leurs erreurs. Elles font partie du jeu. Si la caméra et l'image bougent un peu trop pour les spectateurs, on pourra toujours les rassurer en leur disant que c'est l'habituelle réalité qui est artificiellement propre et figée. Nos films sont imparfaits et contradictoires, comme nous.
L'entretien s'éternise. L'homme s'aperçoit que nous ne nous adressons même plus à lui et que nous débattons désormais entre nous. Entre éclats de voix, tension et rire. Il semble se demander comment échapper à ce traquenard ou réussir à nous faire déguerpir. Il tente alors de reprendre la main tout en cherchant du coin de l'œil, à travers une vitre qui donne sur le hall, le vigile qui y fait les 100 pas. Quel est donc ce nous qui semble parler à votre place? Un copain se lève et fait glisser les lames du store vénitien afin que l'homme ne puisse plus guetter le vigile. D'habitude, quand on vient seul à ses rendez-vous, c'est lui qui nous saoule avec son mépris et ses impératifs. Aujourd'hui, c'est notre tour.
Ce « nous », officiellement, ce sont nos collectifs. Mais leur nom et leur statut n'ont que peu d'importance. L'enveloppe permet de sacraliser un peu les choses, de leur donner corps, quand bien même c'est à la sauce 1901. Mais l'essentiel est ailleurs. Dans cette tentative de casser l'isolement que pourraient impliquer nos choix de vie, d'opposer au silence pesant des carrières abandonnées, le bruit des canettes qu'on ouvre en parlant trop fort et en rêvant trop loin. D'opposer aussi au primat de l'auteur sur les techniciens des entités collectives où l'on ne sait plus trop qui fait quoi. Où le groupe canalise les égos qui seraient tentés de sortir de leur lit et rappelle à qui se prendrait trop au sérieux qu'on est d'abord là pour rigoler. Nous essayons ainsi de créer du commun à partir de notre travail, de l'expression de nos singularités et de leur traduction en histoire qui défile sur des écrans. Avec ce que cela suppose de galère et de raté, d'inertie souvent. Autant se l'avouer, on ne se sent pas toujours à l'aise face à l'hypertrophie de l'enjeu artistique en milieu urbain. Comme s'il fallait à tout prix cacher le gris et la saleté avec de jolis dessins. Nous ne vivons pas cet art comme un enjeu autonome. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est une solution de repli, même si désormais on aime ça. Au creux, nos modes de vie sont en jeu. Chaque repas, nuit, voyage, discussion ou rencontre que nous permet un tournage apparaît comme une victoire. sans qu'on arrive à désigner contre quoi. Et c'est peut-être avant tout ces histoires-là que racontent nos films, en espérant claironner cette chance, cette colère et ces désirs sur tous les toits. On se fiche donc un peu des étiquettes culture alternative et autres faire autrement, on fait tout court et nous ne sommes les marginaux de personne. Le cinéma, comme nos amours et nos amitiés, nos façons de nous loger ou de nous nourrir, porte en lui la reproduction des aliénations et les outils d'émancipation. Nous savons donc dans quel sens nous voulons évoluer, à défaut d'y arriver tout le temps.
L'homme au bureau acquiesce. Simplement, il nous demande pourquoi nous n'avons pas fait semblant de lui prendre quelques-unes de ses offres d'emploi, d'être plus conciliant, juste pour avoir la paix. Parce qu'il va devoir le marquer dans son ordinateur que nous sommes récalcitrants, et ça va faire tache dans le dossier, et là-haut, ben, ils vont pas trop aimer. On lui répond alors qu'on en a marre de devoir raconter des histoires.
Voilà. Ouais, nous non plus.
Ouais, désolé, c'était peut-être un peu long, mais...
Voilà. On n'a pas su quoi couper. Il y a des micros, là.
Effectivement, il y a à peu près tout. Les thèmes dont on avait parlé, la question de l'amateurisme et du professionnalisme, enfin, amateur-professionnel, la distinction entre la vie et le fait de faire des films et le fait de vivre comme on fait ses films, enfin bref, pas paraphraser. Vous avez des choses à leur dire?
Allez. On n'a pas de Facebook, alors moi j'ai de la propagande là.
On a plein de petits cadeaux, hein, si vous...
Voilà, vous pouvez faire passer, s'il n'y en a pas assez, j'en ressortirai. On a un site internet, on en a un, c'est synapse-oduzel.fr, et ça c'est les productions de Synapse, et un autre c'est cinéma-voyageur.org, et ça c'est beaucoup plus large parce que il y a tout le catalogue de diffusion et les films qu'on diffuse, et donc il y a beaucoup de films des autres copains, d'autres collectifs, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est tout noté dans le programme, qui est le programme 2016, parce qu'on n'a pas encore fait imprimer les nouveaux, mais...
Je sais pas si vous voulez dire un mot du réseau d'ailleurs, ou plus tard, ou pas.
Ouais, si, vite fait. Il y a 6 ans, on s'est retrouvés avec d'autres collectifs avec lesquels on s'est aperçu qu'on faisait un peu les mêmes choses, et voilà... Et on était éparpillés dans toute la France, et on se connaissait pas forcément, et donc on a monté un réseau informel qui s'appelle le réseau d'ailleurs... qui a aussi un site internet qui s'appelle d'ailleurs.net, tout attaché, et ça regroupe une soixantaine de collectifs et individus différents de toute la France, avec lesquels on se rassemble une fois par an pendant 4 jours pour échanger sur nos pratiques, autant de réalisation, de production, de diffusion et de questionnement autour de ça, ou de regardeurs ou regardeuses d'images. Et le reste de l'année, on essaye de s'entraider et de mutualiser beaucoup de moyens et de se rencontrer très souvent. On fait des résidences d'écriture, des auto-formations de transmission de savoir. Et puis on se file la main pour faire des envois festivals en même temps et répertorier des lieux de diffusion où on peut diffuser nos films sans que ça coûte trop cher. Et voilà. Je sais pas, après, parlez-en aussi. Parce que...
Non, mais t'as très bien résumé, quoi. Et puis c'est aussi le fait de... Enfin, le réseau d'ailleurs. Après, moi, je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça parce que, ouais, ça fait pas si longtemps que ça fait même pas un an que je suis dans cette nébuleuse un peu, quoi. Mais ouais, le réseau d'ailleurs, il y a aussi ce côté d'aussi vivre des moments qui sont pas à proprement parler centralisés autour du cinéma, quoi. Parce que c'est important aussi juste de se rencontrer, de passer des moments ensemble. Voilà, de faire un gros repas, de boire des coups ensemble, et puis c'est quelque chose d'assez important, quoi. Ça, c'est pour...
C'est vrai que c'est un des trucs principaux du réseau d'ailleurs, c'est on a quand même considéré que c'est bien beau d'avoir envie de faire des films collectivement, mais si déjà on sait pas parler autour d'une table collectivement, ou qu'on sait pas faire à manger ou faire la vaisselle collectivement, ben, déjà peut-être on a des trucs à rattraper avant d'avoir envie de faire des films collectivement, quoi.
Ça va pas être une question passionnante, c'est une question d'argent. Bon, vous mettez tout en accès libre sur Internet. J'imagine que quand vous êtes sous chapiteau itinérant, on doit être, c'est une entrée prix libre peut-être. Ou... Et du coup, comment, enfin, vous ne devez pas solliciter d'aide à la production d'aucune sorte. Vous n'avez pas de télé, etc. Mais donc, il y a un peu d'argent pour faire ce que vous faites quand même. Enfin, ça...
Non, il y en a pas de l'argent. Mais s'il y en a, mais après ça dépend. Prend là où il y en a, on tente d'en prendre là où il y en a.
D'accord. Mais donc vous travaillez en dehors pour cette activité, pour pouvoir avoir du temps pour cette activité-là ?
Ça dépend. Ouais, si.
Ça dépend des cas, certains oui, certains non.
Nous, dans le collectif, il y a des gens qui sont intermittents du spectacle, il y a des gens qui sont auteurs libres, il y a des gens qui sont au chômage, des gens qui sont au RSA, et chacun, en fait, brode comme il peut. Mais ouais, on n'est pas arrivé encore à mutualiser tout ça, mais on essaie de s'entraider.
Dans la production collective, au fond, des collaborateurs, enfin, par exemple, le fait d'avoir des gens qui viennent gratuitement faire leur métier, ça permet de produire des films aussi, de se mettre à plein pour les faire.
Mais, alors là-dessus, ça me fait penser à deux choses. Une première chose, c'est que, ouais, on travaille beaucoup, ce qu'on appelle, enfin, bénévolement, mais on fait beaucoup ça, mais on fait beaucoup d'échanges les uns sur les autres, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand finalement on fait de la transmission de savoir et qu'il n'y a pas toujours une personne qui est réalisateur ou réalisatrice et qu'un coup on se retrouve à cadrer sur le film de l'un et à l'inverse, l'autre vient prendre le son sur notre film et puis à l'inverse, je fais du montage et puis toi tu fais de l'étalonnage et puis toi tu fais de la bouffe et puis on se rechange et ça change tout le temps, ben finalement on se file des coups de main tout le temps comme ça, quoi. Voilà. Et après, niveau argent, c'est sûr qu'il y en a besoin. On essaye. Mais ouais, voilà. Non, c'était ça que je veux dire. Par rapport à la diffusion, c'est qu'on part d'un principe assez simple que plein de gens ne veulent pas voir, alors que c'est la réalité même du cinéma mainstream, dans le documentaire, quoi. Mais c'est qu'on essaye d'avoir les finances. On n'espère pas récupérer de l'argent une fois que le film il est fini, quoi. Donc en gros, une fois que le film il est fini, peu importe qu'en fait on ait eu 2000 euros pour le faire ou 30 000 euros pour le faire, on a cramé cet argent pour le faire, le film il est fini, donc après on peut l'offrir à tout le monde et l'argent qu'on gagne sur le film, c'est du chapeau au prix libre ou des ventes de DVD ou des dons internet, ben, c'est du bonus pour en refaire d'autres. Mais on ne fait pas des films à découvert, on n'a pas de prêt de banque quand on en fait, et voilà. Et donc après, peu importe qu'on ait une aide de région à un moment qui tombe, ou alors qu'on soit les taffés à côté, ou alors qu'on détourne une subvention d'ailleurs et tout, on voilà. Mais en gros, les budgets de nos films, nous, c'est des budgets qui vont entre 1500 et 12 000 euros, quoi. Voilà, les plus gros et les plus petits.
Avez-vous d'autres réactions ou questions?
Oui. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser? J'ai compris que c'était plutôt individuel et produire à plusieurs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, on fait à plusieurs ce que fait le dans une boîte de production classique, en fait, ce que ferait soit le directeur ou directrice de production ou la production exécutive, quoi. Ça, on le fait ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un soutien moral, en fait, à la personne qui fait son film tous ensemble. Donc, soutien moral, c'est pas juste des mots, quoi. C'est vraiment de se voir toutes les semaines et de savoir où t'en es de ton projet et d'être à plein, quoi. Et donc, on se fait des réunions ou des bouffes toutes les semaines pour que chacun parle de son projet et savoir où il en est et qu'est-ce qu'il a comme point de blocage et qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir y arriver. Et tous ensemble, on se met en branle pour arriver à trouver ce qu'il a ou ce qu'elle a besoin, quoi. Donc que ce soit du matériel qu'il faut aller chercher quelque part, que ce soit un coup de main et donc on actionne des réseaux. Donc ça, c'est le soutien moral très présent. Après, c'est aussi le fait d'aller, quand il y a des dossiers à faire, que ce soit des dossiers pour aller gratter des thunes ou des dossiers d'autorisation de tournage, des trucs comme ça, tout l'administratif, on le fait tous ensemble, quoi, parce que sinon, c'est chiant quand c'est, parce qu'on ne peut pas payer vraiment quelqu'un, et puis c'est chiant quand c'est le réal qui doit le faire, et sinon, on ne le fait pas, donc on le fait tous ensemble. Et puis, on fait des relectures de dossiers en cours, quoi, des dossiers d'écriture, que ce soit des dossiers d'écriture formatés pour aller chercher de l'argent via des guichets ou des dossiers d'écriture juste pour arriver à faire un film. On les relit à plein et on en débat. On crée des ateliers nous-mêmes à base de trucs d'éduc pop pour arriver à sortir des idées. Puis on fait des projections de films en cours. Vas-y, toi, tu es bien concerné. Ouais,
on a un exemple assez concret, c'est le petit flyer que je vous ai distribué là, du film Mathieu et All-Star, là, qui est projeté la semaine prochaine. En fait, en gros, c'est pour dire que la production collective, ça peut se faire sur toutes les étapes de la chaîne de fabrication, comme ça peut commencer, par exemple, pour ce cas-là, pour ce film-là, ça a commencé au niveau du dérochage. Moi, je suis venu voir les copains à Synapse, je leur ai dit, voilà, j'avais déjà commencé un tournage, j'avais plein d'images, j'avais besoin d'une station de montage, j'avais besoin de matériel. Et comme vous, enfin, je pense qu'il y a des gens ici qui savent ce que c'est que d'essayer de faire des films quand on n'a ni réseau, qu'on est le fils de personne et qu'on n'a pas de thunes. C'est super dur, en fait. Donc, dans ce cas-là, par les affinités, on connaît des... Bon, bref, je me suis retrouvé à Synapse. Du coup, il y a eu des visionnages collectifs, des rushs que j'ai tournés tout seul, qui ont donné lieu à un deuxième tournage. Et après ce tournage-là, bah, y a eu le montage du film qui était ponctué, qui a duré 6 mois et qui était ponctué par à chaque grosse session de montage, on avait un visionnage collectif pour avancer ensemble sur un film qui était d'ailleurs pas facile parce que c'est un film sur un où il n'y a pas un seul personnage, il y a plusieurs personnes dans ce film. En fait, on fait le portrait d'un bâtiment occupé, d'un collectif, d'une lutte politique, et c'est très compliqué c'est assez compliqué de mettre ça en image. Peut-être qu'après les personnes qui sont là pour représenter le film Les Intranquilles, c'est ça, ils pourront
nous les intranquilles dessus, ouais.
Tout ça pour dire que ça fait avancer énormément en fait, parce que déjà ça nous fait un petit peu descendre de ce qu'on pourrait appeler l'ego du réalisateur. C'est juste, ça nous fait bosser collectivement et c'est super enrichissant. Ensuite, la deuxième chose, plus au niveau de l'argent, voilà, avec ce film là par exemple, on a fait une petite collecte participative, truc maintenant qui inonde le net. Tout le monde fait des collectes maintenant pour des anniversaires, pour n'importe quoi. Bref, on a fait une collecte nous aussi et on a réussi à avoir un peu d'argent. Cet argent-là, en fait, après, c'est pas... Ensuite, on se le réinjecte pour que ça aide ensuite à des copains qui auraient envie de faire des films. Par exemple, on investit dans une caméra, on va investir dans du matériel pour faire de l'étalonnage nous-mêmes et pour en même temps se former, parce que par exemple ce film-là, encore une fois, là on est en train de l'étalonner, il sort, bon voilà, il est fini après-demain, et là on a des copains qui sont dans la salle de montage, on a investi dans un petit boulier, là ils sont en train de s'éclater avec le boulier, il y a des personnes qui se forment sur DaVinci, là, le logiciel d'étalonnage. C'est un peu... je sais pas si on peut faire une métaphore de ce que ça peut être, mais c'est expansif un peu, quoi.
Je rebondis sur ça, c'est que l'argent, quand on l'a, en fait, on essaie à chaque fois de se dire c'est bien, on a l'argent, mais on essaye de le cibler de ce qui va être le maximum collectif, quoi, ce qui va pouvoir nous servir en fait pour un maximum de films, qui pourra nous servir pour des fois aller faire des ateliers et gagner 3 sous, qui pourra nous servir pour relouer et tout. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup dans le matos en fait quand on a de l'argent qu'on arrive à taper dans ça, et dans des moments de vie aussi, on les met dans des frais de frigo, des locaux qu'on a et tout, pour pouvoir manger ensemble des bobounes et partager du temps collectif, quoi.
C'est très important, la bouffe, chez nous.
Et pour revenir, c'est que la production, on oublie souvent que, parce que justement c'est corrompu par l'histoire de l'argent et qu'il y a des guerres entre production et réalisation et qu'il y a ce truc-là, mais la production, s'il n'y avait pas ces histoires d'aller chercher des financements et être que là-dedans, c'est aussi un contre-pouvoir en fait du réalisateur ou de la réalisatrice et un suivi moral, quoi. Et donc j'ai l'impression qu'en faisant de la production collective, on réhabilite un peu quelque part qu'est-ce que devrait être la production d'un film.
Et s'agissant de la diffusion, c'est vrai qu'on peut raccrocher les wagons avec le web, parce que longtemps on s'est posé la question sur les précédentes éditions notamment, c'est comment on diffuse sur le web, ce qui est quand même presque un paradoxe de se demander comment on diffuse sur le web, étant entendu que diffuser sur le web ça coûte rien. Et en fait, ce qui était sous-entendu par là, c'est où est-ce qu'on diffuse sur des plateformes qui permettent du financement. Et là, effectivement, sur la question des collectifs, que ce soit pour Abou Nadara et pour vous et pour d'autres expériences collectives, c'est d'utiliser le web voilà, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vecteur de diffusion qui ne coûte
compliqué.
Pas grand-chose.
Enfin, nous, on a cru, hein, quand on a commencé il y a 10 ans, et nous, notre première fiction qu'on a fait... On a fait du crowdfunding à un moment où il n'y avait quasiment pas de crowdfunding. On avait fait développer un espèce de truc PayPal, machin, là, pour l'avoir et tout. On a été un peu soutenu par des geeks parce qu'on avait annoncé qu'on le faisait en Creative Commons et donc on était dans cette voie-là et tout. Mais on croyait que ça allait être trop bien. Enfin, on croyait que l'argent, on allait l'avoir comme ça et qu'après les diffusions, on allait les avoir comme ça. Sauf qu'en fait, quand on ne crée pas de buzz sur Internet, il n'y a personne qui le voit, quoi. Et Internet, pour les formats longs, ça ne marche pas. Enfin, c'est que des formats courts. Il faut avoir une chaîne YouTube ou une chaîne machin, il faut la faire vivre. Enfin, il y a tout un truc du buzz en fait que nous on n'a jamais réussi à faire, puis qu'on n'a même pas eu envie, quoi. Donc on a multiplié les la preuve, c'est plus nous on a préféré par exemple mettre nos films sur des trucs de torrents ou de peer-to-peer, quoi, parce que déjà les gens qui veulent voir des formats longs, c'est plus par là qu'ils le font. C'est quand même plus cool de le faire soi, comme ça au moins les gens qui le téléchargent direct, ils ont une version bonne qualité, ils peuvent la diffuser, ils la voient bien, et ils n'ont pas un truc tout pourri que quelqu'un a compressé à l'arrache donc nous on le fait nous-mêmes, quoi. Mais après, oui, on a plein de films, on a mis sur internet, bah ouais, ça se taille, il y a eu 310 personnes qui les ont vus, c'est pas énorme. Et pareil, on a mis don à prix libre, allez-y, téléchargez-le, et puis de toute façon, vous pouvez faire un don, quoi. Bon, on le voit sur les films qu'on a fait, on a dû avoir en moyenne 23 euros, quoi. Donc c'est pas comme ça qu'on finance. Et puis après, nous, on s'est dit qu'on squattait tout. Et donc, en fait, on signe zéro contrat d'exclusivité, mais quand on nous contacte pour être sur des plateformes de VOD, on dit oui. Alors, c'est drôle parce qu'on a des... Moi, un de mes films, par exemple, il est sur 3 plateformes de VOD, mais il est sur YouTube, Vimeo et en torrent, quoi. Alors, c'est peut-être pour ça que ça me rapporte pas beaucoup d'argent, la VOD, quoi. Mais je reçois mes 5,80 euros à peu près, généralement, par mois.
On va peut-être atterrir doucement sur qu'on ait le temps, en fait, de repartir sur une discussion collective avec nous, les Intranquilles, donc avec vous quatre ou vous trois. Je ne sais pas qui veut venir présenter les quelques extraits. Merci, mais on revient. Donc c'est un merci provisoire. On va ensuite faire revenir avec un petit temps avant la... Donc voilà, je resitue ce que je disais tout à l'heure, Nicolas Contant qui a... Bah, j'allais dire qu'il a impulsé le film, mais vous allez raconter comment ça s'est passé, peut-être. Est à Rennes, il présente le film et dans son intégralité. Et donc, du coup, c'est pas plus mal puisqu'on parle des collectifs et donc c'est une présentation collective qui vous est proposée.
Bah, peut-être déjà vous dire un petit peu ce que c'est que le collectif Artaud, parce que voilà, on s'est nommé comme ça. Voilà, donc on est quelques membres du collectif Artaud. On vient du centre Artaud, qui est un centre médico-psychologique, un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Et depuis pas mal d'années, on travaille tous ensemble à créer, voilà, collectivement, diverses choses, avec un engagement certain de chacun. Ce qu'on va vous montrer là, ce sont des extraits du film. Donc, pour nous qui l'avons vu plusieurs fois sur la totalité, je ne sais pas ce que ça va pouvoir représenter pour vous, mais en tout cas, je pense que ça représente les moments forts du film. Je crois qu'il y a 4 extraits, si je me souviens bien. Peut-être vous laisser regarder ce montage-là et puis après pouvoir vous en dire quelque chose, déjà pour se rappeler, si vous voulez. Fait comme ça.
Alors j'allais repréciser les projections, mais elles sont là, effectivement, puisqu'on ce qu'on a vu, c'est vraiment que des extraits du film, évidemment. Qui veut prendre la parole pour raconter comment a démarré cette expérience collective avec Nicolas?
Ben moi je veux bien commencer un peu à en parler, ouais. Donc Nicolas Contant, qui est le co-réalisateur, tient-il à ce qu'on précise. Donc l'histoire, c'est que c'est un film, là il y a un extrait, ça dure 1h30, l'objet fini, et il a été co-réalisé à la fois par lui, parce que c'est lui qui amenait les outils principaux, à savoir les caméras, tout ce qui est le son, et puis aussi à la fin le montage et tout ça. Enfin, les objets qui servent à faire le montage. Il est donc arrivé au centre Artaud, qui est donc un lieu d'accueil, centre de jour, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce genre de structure. Et donc, il est arrivé là, il voulait faire un film sur le collectif. C'était ça, son objet. Essayer de montrer quelque chose de collectif. Et pour montrer ça, il a décidé de faire ce qu'il appelle une œuvre collective, c'est-à-dire il nous a donné... à ceux qu'il souhaitait des caméras, il a fait les propositions de prendre les perches et tout ça. Il nous a aussi proposé à tous ceux qui étaient intéressés de réaliser des petites séquences, c'est-à-dire réaliser dans le sens où on pensait à ce qu'on avait envie de montrer ou de dire ou de faire. Et puis voilà, c'était filmé par les uns ou les autres. Et voilà, ce qui fait qu'à la fin, il s'est retrouvé avec vraiment grosse masse de rush, comme on appelle ça dans le milieu. Et puis, dans un dernier temps, il y a eu des échanges entre lui et ceux qui avaient participé à cette grosse collecte. Il y a eu des échanges pour finir à un montage qui est aujourd'hui le film, quoi. Voilà.
Et au départ, je crois qu'il était venu quelques semaines. Et puis finalement, si on regarde bout à bout, il est resté 3 ans. Bout à bout dans le temps, en tout cas. Il est venu aussi, il a fait énormément de choses dans le film. On voit aussi l'extérieur, parce que là on voit beaucoup au centre Artaud. En fait, dès qu'on allait quelque part, généralement il était là pour filmer, alors soit les manifs, parce qu'effectivement on est
Je ne sais pas si on peut appeler ça du militantisme, mais en tout cas, y a un travail du politique très conséquent, en tout cas au centre, et puis on amène ça à l'extérieur, mais c'est-à-dire du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans un lieu qui est un lieu de soins, hein, mais avec tout un dispositif... avec plusieurs structures qui s'articulent les unes avec les autres. Voilà, c'est pas évident d'expliquer concrètement, parce que c'est une masse de choses qui se fabriquent en commun, dans différents lieux, mais qui s'articulent ensemble, et puis qui tentent en tout cas de dire que... tous les gens qui sont là sont avant tout citoyens et tentent de vivre ensemble avec les difficultés de chacun et tentent de fabriquer des choses.
Oui, donc pour revenir sur ce que disait Christelle à propos du collectif, en fait au Centre Artaud, en fait, la base c'est la psychanalyse et c'est la psychanalyse freudienne ou lacanienne. Et en fait, oui ça fait rire. En fait, tout est fait de manière collective avec une grande transversalité, notamment dans les clubs. Il y a plusieurs clubs. Il y a un club thérapeutique, le Grillon. Il y a un groupe d'entraide mutuelle qui s'appelle la Locomotive, qui a convention avec le PSM et qui a des personnes ressources qui viennent du centre Antonin Artaud pour intervenir et prolonger le soin dans le GEM. En tout cas, tout se passe comme si... Le patient avait le même niveau de responsabilité que le soignant. C'est vraiment quelque chose de collectif, parce que la psychothérapie institutionnelle, qui est la base de ce qui est pratiqué au centre Antonin Artaud, est basée sur le marxisme. Et oui, comme disait M. Jean Houry, la psychothérapie institutionnelle, il y a deux jambes, c'est le marxisme et la psychanalyse. Et donc... oui... je disais donc le collectif c'est très important. On est notamment on fait quelque chose qui s'appelle la semaine de la folie ordinaire à Reims. Alors c'est une alternative au SISM, aux semaines d'information sur la santé mentale. On a décidé de subvertir le sujet. D'ailleurs parfois lorsqu'il y a des préconisations, un thème comme santé physique et santé mentale, un enjeu fondamental, enfin quelque chose comme ça, un lien vital, pardon. En tout cas, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on arrive à faire une alternative. Et justement, on voit que nous sommes un lieu de soins alternatifs quand on voit la manière dont sont prises les décisions, que ce soit en assemblée, comme on le voit dans les extraits, dans également tout ce qui en découle, c'est-à-dire les Olympiades. Ce qu'on voit au début quand on est habillé en indien, ce sont les Olympiades. Chacun des clubs et le GEM participent aux Olympiades. Et c'est un moment de partage et d'émulation. On s'amuse, on est heureux. C'est vraiment, le Centre Artaud représente vraiment une sorte de psychothérapie alternative, différente de ce qu'est le comportementalisme tel qu'il nous est vendu aujourd'hui. Voilà, peut-être que Olivier voudrait dire quelque chose.
Oui, moi je trouve que c'était vachement important Synapse, parce que le truc de la bouffe et puis de rigoler ensemble, c'est hyper important. Parce que là, vous avez vu, c'est un lieu de même du service public. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des lieux du service public où on peut se permettre de déconner, de dire des choses, parce que dans le film, il y a des propos par moments qui sont ouvertement anti-hiérarchiques hospitalière, qui est tout de même effrayante. L'hiérarchie hospitalière, ça écrase cette dynamique-là. Le but, c'est d'utiliser les lieux du service public pour en faire quelque chose de vivant, transversal, un art un peu, mais en même temps en utilisant les outils qui sont proposés pour en faire quelque chose de dynamique et créatif. Là, on ne voit pas qui est soignant, qui est soigné. Hein, ça ne veut rien dire, ces machins-là, parce qu'il y a des soignés qui sont soignants et il y a des soignants qui sont soignés. C'est vrai. Et cette dynamique-là, tout de même, elle ne se reconnaît pas dans les autres lieux de soins. Souvent, dans les lieux de soins, il y a une espèce de hiérarchie comme ça, où, on va dire, entre guillemets, les soignants ont le pouvoir sur les soignés, et parfois, c'est à leur détriment. Et la question du soin, elle n'y est pas, même de l'humanité ou de l'humanisme. La question, c'est toujours, dans le soin psychiatrique, et aussi dans l'accueil, parce que moi, j'étais touché par le premier truc sur les Syriens, sur la question syrienne, parce que Artaud, on s'attache beaucoup tout de même à pouvoir accueillir pas que des gens qui sont dans quelque chose de psychiatrique ou psychiatrisé, pouvoir les accueillir humainement. C'est aussi un accueil très, comment dire, très volontaire et militant de gens qui viennent d'ailleurs. Parce que l'ailleurs, en ce moment, il est tout de même compliqué, complexe, il est plutôt rejeté. Et de pouvoir accueillir, avec cette dynamique de la psychothérapie institutionnelle, c'est des mots, hein. Mais tout de même, c'est une dynamique par rapport à ce qu'on entend sur le comportementalisme, DSM et compagnie, pouvoir accueillir aussi les gens qui viennent d'ailleurs et les accueillir à bras ouverts. La question syrienne, bon, je ne vais pas trop en parler, mais Artaud, elle se pose un peu. Elle se pose aussi dans d'autres lieux satellitaires, parce que le but, c'est aussi d'aller envahir les autres lieux. Il y a un groupe, les clubs, c'est un truc important, parce que c'est un truc où on se permet de pouvoir discuter ensemble et de prendre des décisions où il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une décision au moment, mais la décision, elle est discutée, elle est débattue. Et ça, c'est tout de même important. Donc il y a des lieux d'accueil qui sont bâtis sur le modèle, un peu, modèle, ça ne veut rien dire, mais ce qui se passe à Artaud, dans des lieux qui sont des missions locales, notamment une mission locale à Reims, ou un lieu où un club a été créé avec des jeunes qui étaient, comme ça, laissés à l'abandon dans les quartiers, comme on dit, qu'on ne pouvait pas mettre dans le système du travail, ce que vous racontez très bien, hein, ce truc-là, faut rentrer dans les cases, et si vous ne rentrez pas dans les cases, bah, et vous n'êtes pas en stage, vous êtes un petit peu à l'abandon. Créer une dynamique comme ça d'accueil, avec des jeunes qui venaient sans papier, sans parler la langue. Et créer comme ça un accueil, même sans comprendre la langue, on arrive tout de même à accueillir. Bon, c'est ça qui est important, c'est cette dynamique-là, un petit peu, qui est reflétée dans le film, c'est travailler le quotidien, faire en sorte que le quotidien, c'est important de bouffer ensemble, de rigoler, mais pas que, c'est pas une kermesse joyeuse, hein. Il y a des moments très difficiles, compliqués, qu'on peut voir dans le film par ailleurs, mais faire en sorte de subvertir les lieux publics, les services publics de soins, et qu'il y a quelque chose qui vienne traverser un petit peu la question de l'humanité, ce qui nous rassemble, et faire du commun. La question du commun est tout de même importante, collectif, mais construire quelque chose en commun.
Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit toutes les passerelles sur trois projets, enfin trois collectifs, sont au fond très différents sur quant à leur objet. Et finalement, cette question du commun qui revient, et là encore retourner ou détourner le langage, enfin la sémantique utilisée, là en l'occurrence plus par les institutions, avec cette idée de santé mentale. Il y a vraiment des ponts qui se créent. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions, peut-être rapidement, enfin, ou observations, ou suggestions, ou remarques, enfin, des choses que vous aimeriez dire, que ce soit sur le projet de Nicolas et du Centre Artaud, ou sur ce qui a été présenté par un texte.
Sur le dernier projet, moi, je me demandais comment les personnes. Pardon. Bonjour. Je voulais juste poser une question sur le dernier projet qui vient d'être présenté. En majorité, comment votre démarche a été accueillie ?
Par qui ?
Par les patients.
Oh, bah, c'est variable, il y a des gens qui ont tout de suite eu envie.
Il y en a d'autres qui se tenaient vraiment à l'écart du champ de vision de la caméra.
Ouais, c'est ça, qui ne voulait pas être filmé. En fait.
Voilà, ouais, il y a vraiment une grosse file active, comme on dit, dans ce centre de jour là. Donc tout le monde n'a pas pris part au projet, néanmoins il y a, je sais pas, au moins 15 ou 20 personnes à la fin qui ont gravité dans le projet.
Et ceux qui prenaient pas part, ils étaient dedans. Parce que la question, c'est de défendre tout de même un accueil comme ça dans des lieux de psychiatrie qui sont parfois extrêmement difficiles et terribles. Et ils étaient peut-être pas à l'image, ils prenaient pas part, mais ils étaient extrêmement soutenants par rapport à leurs collègues qui créaient et construisaient ce film-là au quotidien. Pour que des images comme celle-ci puissent passer et tourner un petit peu partout, sur le web ou même ailleurs, et que subvertir, utiliser tous les espaces pour pouvoir subvertir, parce qu'à un moment on ne voit pas, mais il y a le discours d'Anthony de Sarkozy qui était tout de même sur la question de la folie extrêmement violent, en disant que finalement tous les schizophrènes étaient des gens. Et voilà, c'était subvertir tout de même ces images-là, un peu comme la question. C'est vraiment rapprocher, faire des passerelles, mais subvertir tout de même la question véhiculée habituellement par les médias. Si vous regardez la télé, je ne regarde pas trop, mais tout de même, les retours qu'on en a, c'est tout de même terrifiant, et les lieux sont terrifiants, et le retour est terrifiant sur l'image de la folie qu'on véhicule. Et on s'est dit tout de même, et le projet Nicolas, je pense que c'est ça, c'est d'utiliser tous les espaces possibles liés à l'image pour subvertir l'image qui est renvoyée par les médias sur la folie. Voilà, et c'était tout de même aussi ça. Et donc, les gens qui ne participent pas au film sont très, très demandeurs, enfin, étaient très participants, en fait.
Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que, en fait, en réaction à la loi de 2011, nous avons fondé d'ailleurs un collectif, un autre collectif, qui s'appelle l'UMAPSI. Oui, une asso, oui, c'est une association. Oui, tu as raison, Olivier. Tu as raison. C'est une association de patients qui s'est créée parce qu'on avait besoin d'avoir une représentation, parce qu'on ne se reconnaissait pas tout à fait dans les circuits habituels de représentation comme la FNAPSI ou d'autres. Et on est plusieurs comme ça. Et on apparaît à un moment dans le film, d'ailleurs, dans une petite scénette assez drôle, où on a l'impression qu'on est une sorte de FLNC du Centre Antonin Artaud. Et en fait, grâce à cette association, nous pouvons maintenant, grâce au soutien aussi des soignants d'Antonin Artaud, on peut rencontrer des personnes de l'université, en formation, dans les IRTS, dans les IFSI. Et ça change beaucoup leur regard par rapport aux personnes qui sont en souffrance psychique, parce que on peut dire que les médias véhiculent une image très négative, malheureusement, de la folie. Oui, mais nous, on fait exprès de dire folie parce qu'on sait que ça fait parler. Voilà, madame. Ça marche. C'est volontaire. C'est pour ça qu'on a appelé aussi l'événement que l'on réalise chaque année au mois de mars. On appelle ça Semaine de la folie ordinaire. Voilà.
Moi, je voulais dire aussi que ce film-là, c'était aussi l'occasion justement de venir comme dans des lieux comme ici et d'ouvrir un peu plus au public, parce que effectivement, ça, c'est un bon support pour pouvoir discuter. À la fois de l'actualité de la psychiatrie et de tout ce qu'on nous... Enfin, ouais, l'actualité de la psychiatrie qui n'est pas très belle, quoi. Mais en même temps, d'amener, comme tu disais, ce discours et cette expérience, parce que voilà, on le vit au quotidien, de quelque chose d'autre possible, voilà, d'une psychiatrie simplement humaine. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
J'ai encore la possibilité. On a encore une minute, c'est ça? C'est la fin?
Ouais, on me fait des gros yeux comme quoi c'est un peu la fin. Il aurait fallu clairement 3 heures. Et en tout cas, mais allez-y.
Ah bon, j'ai une minute. Je voulais faire un peu de sous-titrage, c'est parce que j'ai vu le film en entier. Et en fait, ce qui est assez déroutant pour le spectateur du film en entier, mais parce que j'espère donner envie de le voir, c'est qu'on sent bien que les images n'ont pas le même, je ne sais pas si on dit statut, c'est-à-dire qu'il y a des images documentaires sur le centre, comme la séquence qu'on voit de l'AG, et puis il y a ces moments où sans doute vous avez perçu que la personne a eu la possibilité d'être auteur de ces images, de construire, et donc c'est un peu au fond ça a sorti sur des sortes d'autoportraits ou de choses comme ça qui sont très étonnantes prises dans le documentaire. Tout d'un coup c'est un regard qui paraît très presque voleur dans un documentaire, on est rarement si proche des, mais parce que voilà, c'est ces deux choses qu'il a entrelacées voilà, par la suite.
Oui, je crois que les extraits, d'ailleurs, il les avait montrés comme voilà. Ça.
Et différent. Juste pour finir, c'est le Centre Artaud, comme objet aussi de film, a été aussi l'objet d'un film qui est aussi un bon film pour les débats. Je me permets de vous le signaler, il est toujours en accès libre sur Internet. C'est un film produit, France 5, etc., qui s'appelle Un monde s'en fout de Philippe Borel, qui commence à avoir déjà quelques années. Mais où vous pourrez retrouver les quelques personnages qui sont aussi dans le film de Nicolas Contant, pardon pour personnage, et voilà. C'est aussi un film très utile pour comprendre ces questions. Voilà.
Merci beaucoup pour cet ajout. Et merci à tout le monde, c'est un peu court pour le temps de discussion, hélas. Mais donc c'est à refaire, j'imagine, sur ces croisements entre ces différents collectifs, ces différentes formes de lutte, sans que ce soit forcément du militantisme. Mais c'est relativement politique dans tous les cas, dans les manières de faire. Merci à tout le monde. On enchaîne peut-être directement avec la deuxième table ronde.